Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Roselyne Bachelot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce premier grand jury en tant que ministre de la Culture. À mes côtés aujourd'hui pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et Adrien Gindre de TF1 LCI.
Bonjour.
Bonjour Adrien. Alors Roselyne Bachelot, votre dernier grand jury remonte à 2010,
et oui.
10 ans tout rond. Vous voilà donc de nouveau dans l'arène, un ministère dont vous rêviez, le seul, aviez-vous dit, qui puisse vous faire revenir en politique. C'est donc fait, et vous revenez, c'est toujours mieux que l'inverse, auréolé d'une popularité au sommet. Mais le plus dur est devant vous, face à un monde de la culture anémié, frappé de plein fouet par la pandémie, et qui s'interroge tout simplement, Roselyne Bachelot, sur sa survie. Alors comment les aider, les rassurer? Les 2 milliards du plan de relance que vous avez obtenus, y suffiront-ils? Nous en parlerons bien sûr longuement dans cette émission. Votre expérience politique, Roselyne Bachelot, votre style détonne dans une start-up nation macroniste où jusqu'il y a peu, ce qui primait était d'abord la nouveauté. Et votre avantage, c'est comme vous l'avez dit vous-même, de ne pas avoir de carrière à faire. Je dirai ce que j'ai à dire, avez-vous même prévenu. En même temps, vous n'avez pas attendu. Entre votre soutien bien connu au Pax, contre votre camp, la droite à l'époque, c'était en 1999, et votre amitié indéfectible à François Fillon, vous avez fait le grand écart, ce qui, dans vos fonctions de ministre de la Culture, vous sera bien précieux, et pas seulement pour consoler les danseurs de l'Opéra de Paris qui vous sont si chers. Vos références sont multiples. Les proverbes africains, notamment, si souvent empreints de sagesse, c'est vrai. J'ai noté celui-ci, Roselyne Bachelot, au sujet d'Emmanuel Macron, quand il a tourné le dos à François Hollande pour briguer sa succession. Vous aviez dit, c'était en 2017, je vous cite, « L'antilope qui quitte sa mère finit toujours sur un tam-tam ». Il est aujourd'hui Emmanuel Macron à l'Élysée. Ferez-vous sa campagne en 2022? Nous en parlerons dans la seconde partie de cette émission. Mais avant tout cela, Roselyne Bachelot, revenons à la perte d'une grande du monde de la culture, Annie Cordy. La première question vous est posée par Adrien Gé.
Elle s'est éteinte effectivement vendredi à l'âge de 92 ans, grande chanteuse, grande actrice aussi sur la fin de sa vie et l'incarnation sûrement d'une forme d'insouciance. Alors Roselyne Bachelot, on a envie de vous demander si aujourd'hui vous lui voyez des héritières, des héritiers, si d'une certaine manière avec son décès, ne s'est pas envolée une partie de cette époque de la fantaisie et de la légèreté qui semble avoir disparu en 2020.
J'espère que cette époque n'est pas terminée, mais en tout cas, c'est l'occasion pour moi de saluer Annie Cordy, parce que c'est aussi une partie de mon enfance qui part. Avec mes parents, qui étaient d'origine très modeste, nous avions une sortie théâtre tous les ans. C'était au moment des fêtes de Noël, nous allions voir une opérette. Et c'est le souvenir d'Annie Cordy avec Bourville dans La Route Fleurie ou avec Luis Mariano dans Le Chanteur de Mexico. Et vraiment, c'est toute mon enfance avec Annie Cordy. Et j'ai l'impression, je l'ai dit, mais que c'est quelqu'un de ma famille qui est parti. Est-ce que pour autant, ce règne des fantaisistes, des gens qui font sourire, qui font rire, est parti, est définitivement parti? En tout cas, moi, en tant que ministre de la Culture, toutes les formes d'art me sont familières, toutes les formes du spectacle vivant. Il n'y a pas d'un côté du spectacle vivant qui est réservé à l'élite, et puis un spectacle plus populaire, on peut goûter à tout, et Annie Cordy en était le témoignage.
Alors la légèreté, c'est vrai qu'elle est difficile aujourd'hui à vivre, étant donné la pandémie que nous rencontrons. Et nous passons donc à la stratégie gouvernementale sur les tests qui interrogent. La question vous est posée par Guillaume Roquette.
Oui, on sait qu'il y a de plus en plus de cas diagnostiqués au Covid. Certains disent c'est normal, c'est parce qu'on teste de plus en plus. Et il y a parfois même un embouteillage, les gens n'arrivent pas à se faire tester. Alors la question c'est, est-ce qu'on teste trop aujourd'hui sur le Covid?
C'est vraiment une question pour Olivier Véran, mais je veux bien répondre. On ne teste jamais trop, bien entendu. Et le testage est un élément tout à fait précieux dans la lutte et dans la prévention du Covid, puisque à partir du moment où on vous détecte positif, vous pouvez déployer les stratégies de précaution. En tout cas, je veux dire que c'est aussi la responsabilité de chacun. J'ai ici mon masque.
Très
que j'ai
coloré.
Quitté. Oui, c'est un masque d'une plasticienne qui s'appelle Orlan. Je porte des masques qui sont faits par des grands artistes.
Il y a un côté Kandinsky, un peu.
Oui, c'est un côté Orlan, voilà. Et je l'ai quitté très, très exceptionnellement pour faire cette émission. Donc c'est vraiment la responsabilité de chacun. Je note que Olivier Véran a bien indiqué que ces délais parfois importants qui résulte certainement d'un embouteillage lié à la rentrée des vacances, est en train de se résorber. Et dans quelques jours, cette question sera réglée. Il faut bien sûr se tester.
Est-ce qu'il y a un débat au sein du gouvernement aujourd'hui sur la réduction de la quatorzaine, Roselyne Bachelot ? Vous avez été ministre de la Santé, c'est vrai que 14 jours, ça paraît beaucoup. Certains scientifiques proposent 7 jours. Est-ce que vous dites que, même pour le monde de la culture, la fréquentation, on va en parler des théâtres, est-ce que vous dites c'est vrai qu'il faudrait peut-être le réduire ?
Alors, c'est quelque chose qui sera envisagé lors du prochain Conseil de défense, puisque les décisions concernant les précautions sanitaires sont prises de façon collégiale entre les différents ministres concernés. Mais c'est l'occasion pour moi de rappeler les consignes sanitaires qui s'appliquent dans les salles de spectacle vivant ou dans les musées. Le masque, je le répète, est obligatoire, y compris dans certaines salles où on pouvait le déposer, en particulier les salles de cinéma, où on pouvait le déposer au moment de la représentation, quand les lumières s'éteignaient. Si on veut que les personnes, que tous les publics reviennent dans les salles de spectacle, il convient de les sécuriser. Donc, être à côté de quelqu'un qui porte un masque ou qui n'en porte pas, ce n'est pas la même chose. Je rappelle que la distanciation physique entre les personnes n'est pas entre chaque personne, mais entre chaque groupe de personnes inférieur à 10, ce qui permet une jauge de 70% dans les zones rouges. Oui. Et dans les zones encore vertes, la jauge est portée à 100%.
Mais sur cette question en particulier, venons-en donc à votre portefeuille, Roselyne Bachelot. Ce matin, dans Le Parisien aujourd'hui en France, des directeurs de théâtre de la Huchette et du Lucernaire à Paris dénonce un choix absurde et illogique dans le maintien de la distanciation, puisqu'il y a le port du masque. Ils disent, voilà, c'est un coup de grâce. Puisqu'on porte le masque, pourquoi maintenir cette distanciation ? Ça risque de les atteindre économiquement.
C'est une mesure de prévention. La distanciation physique, je le répète, assure une jauge de 70%. C'est donc une jauge importante.
Et vous ne pensez pas aller plus loin ? Est-ce que vous pensez que 70% et ils disent pour certains, par précaution, ils font 50 ? Est-ce que vous dites, bon, ben, on va peut-être à un moment donné cesser la distanciation parce que le masque sera suffisant ? Est-ce que c'est envisageable ?
Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais là-dessus, c'est une décision qui est prise sur des critères scientifiques. Il faut bien comprendre que nous affrontons une pandémie qui est d'une nature, je dirais, inconnue. Enfin, comment le coronavirus va se déployer ? Est-ce que nous allons voir au moment de l'automne une flambée, une deuxième vague ? Nous n'en savons encore rien. Donc je crois que il faut bien comprendre qu'il y a deux choses. Il y a la jauge, il y a les précautions et puis la volonté de sécurité, l'absolue nécessité de la sécurité. Si finalement on relâche les consignes de sécurité et que les gens se sentent pas en confiance pour revenir dans les salles, nous aurons mis une jauge à 100%, mais les gens ne se sentiront pas en sécurité pour y revenir.
Dans le métro et dans le train, on est côte à côte avec le masque. Pourquoi ce n'est pas le cas dans les salles de spectacle ? Voilà ce qu'il vous rétorque.
Je vais vous répondre pour le TGV, parce que l'air est renouvelé toutes les 10 minutes, ce qui n'est pas le cas dans les salles de spectacle.
Et forcément le cas dans le métro.
Est-ce que vous y restez moins longtemps ?
On pourra revenir au monde de la culture, mais monter une petite musique sur le thème « on en fait trop ». Quand des tribunaux administratifs à Strasbourg et à Lyon cassent la décision du gouvernement d'imposer, et des élus locaux d'imposer le masque partout, y compris à l'extérieur. On verra si le Conseil d'État confirme ou non aujourd'hui. Il y a peut-être des réticences là qui s'expriment sur des mesures trop radicales.
J'attends avec intérêt évidemment la décision qui sera prise. Et il ne me reviendra pas de contester une décision de justice, nous verrons bien. Mais en tout cas, moi, je rends attentif au fait de ne pas avoir des choses trop compliquées, trop différenciées. On l'a vu à Paris au départ. Il y avait des rues où le masque était obligatoire, des rues où ne l'était pas. Si on se met à raffiner les décisions de prévention et de précaution, elles vont devenir incompréhensibles et elles ne seront pas observées. Donc, il y a un aspect, je dirais, juridique, mais aussi il y a un aspect pratique dans les mesures de prévention.
Mais vous disiez tout à l'heure, il faut porter le masque au spectacle, c'est ce qui permet d'y être en toute sécurité. Si le masque protège, pourquoi par exemple ne pas envisager qu'on puisse aller au-delà de cette jauge des 5000, qui vaut par exemple pour les grands spectacles, les grands concerts, parce qu'aujourd'hui il y a certains organisateurs de spectacles qui vous disent « on va mourir économiquement, il y a des artistes qui ne peuvent plus faire leur tournée, parce que cette jauge vaut toujours pour le coup comme un plafond maximum ».
Alors, il y a deux sortes de considérations sur la jauge à 5000. Il y a d'abord les spectacles debout. Il faut être raisonnable, le spectacle debout, dans l'état actuel de la pandémie, n'est pas possible. On l'a vu sur certaines dérogations qui avaient été accordées dans le spectacle debout. Le fait est que les gens se groupent, les spectateurs se regroupent au pied de la scène pour être le plus près possible des artistes. Donc là, il y a une impossibilité, y compris dans des espaces qui pourtant auraient dû permettre une distanciation physique telle qu'elle avait été recommandée par les autorités sanitaire. Je suis désolé, moi-même, je voudrais pouvoir qu'on revienne sur cette précaution. Elle n'est pas possible dans l'état actuel de la diffusion de la pandémie. Alors ensuite, sur les spectacles assis, on pourrait l'imaginer, mais quand on voit les polémiques qui ont été soulevées à travers un certain nombre de dérogations...
Au moment de la dérogation pour le fil de fou, c'est l'allusion que vous faites.
Donc plus de dérogations dans les zones rouges.
Voilà,
mais ça, est-ce que tout ça sera discuté, vous dites, en conseil de défense, comme mercredi, il y a un nouveau conseil de défense où justement la distanciation pourrait être étudiée dans les salles de spectacle? Est-ce que c'est ce que vous allez apporter?
Nous remettrons évidemment sur l'établi cette question à chaque conseil de défense, avec Olivier Véran, avec le président de la République, avec le Premier ministre, nous abordons ces sujets. C'est de cette façon que j'ai obtenu que la jauge dans les zones vertes soit portée à 100%.
À vous entendre, Rosine Bachelot, on vous semblait favorable au fait qu'on lève cette distanciation si le port du masque, comme vous le dites,
est obligatoire. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire ?
Non, j'essaye de comprendre. Parce que c'est vrai qu'il y a cette proximité.
Vous savez, moi je suis à la fois ministre de la Culture, mais je suis également une professionnelle de santé, une ancienne ministre de la Santé. Donc, j'essaie d'aller aussi loin qu'il est possible, en protégeant la santé de mes concitoyens et en assurant les précautions nécessaires. C'est mon boulot de ministre de la Culture, mais en responsabilité citoyenne, parce que rien n'est plus important que la santé des gens.
Adrien Jarne.
Il y a quand même des secteurs qui ont, Rosine Bachelot, dans votre domaine, beaucoup de mal à faire face à ces mesures sanitaires. On va prendre un exemple, il y a le festival Essonne en Seine qui devait avoir lieu ce week-end, qui dit face à la situation sanitaire, l'annulation était préférable. On comprend bien qu'il y a des salles qui ne rouvrent pas encore parce qu'elles ont peur soit des surcoûts engendrés par les mesures sanitaires, soit de ne pas pouvoir tout simplement remplir leur caisse si les gens ne reviennent pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire ou dire de plus à ces acteurs-là? Les festivals, on voit qu'on est encore toujours dans une phase où les annulations sont bien supérieures aux programmations.
Nous accompagnons tous ceux qui ont et qui accompagnent cette volonté que j'ai de réouvrir les salles du spectacle vivant. Et je sais très bien que même avec une jauge à 70%, l'équilibre financier peut ne pas être atteint. C'est la raison pour laquelle, avec le Premier ministre, j'ai décidé l'ouverture d'un fonds de 100 millions d'euros qui permettra aux gens qui réouvrent les salles, gens qui rouvrent leurs salles, mais qui peuvent, avec cette jauge, ne pas atteindre l'équilibre financier, d'être accompagnés pour atteindre cet équilibre financier.
Mais avec ça, vous pouvez nous dire qu'il n'y aura aucune perte d'emploi et aucune faillite pour ces acteurs-là ?
Alors, il y a deux choses, et vous posez une bonne question. Il y a des difficultés structurelles et des difficultés conjoncturelles. Les difficultés conjoncturelles seront de cette façon abordés. Nous allons accompagner, nous sommes d'ailleurs en discussion avec tous les acteurs du spectacle vivant sur ce sujet. Il y a des difficultés structurelles, évidemment. Il y a des entreprises du spectacle vivant qui naissent, qui meurent. Il y a, c'est d'ailleurs ce que nous devons envisager, c'est de repenser ce modèle. C'est pour ça que, à travers le plan de relance, non seulement nous avons des mesures d'accompagnement qui continuent. Hein. Nous avons aidé ainsi par des mesures d'accompagnement le spectacle vivant avec 5 milliards d'euros. C'est déjà considérable. Mais ce que je veux faire dans le plan de relance, c'est vraiment d'appeler le modèle à se repenser. Dans la salle, il y a Alexander Neff, que je salue, qui est le nouveau patron de l'Opéra de Paris. Il y a des difficultés qui sont liées à la crise du Covid, bien sûr, mais il y a aussi des difficultés qui sont des difficultés structurelles. Donc, j'invite les acteurs du spectacle vivant à se penser sur les deux choses.
C'est une remise à plat pour vous.
C'est 217 000 salariés, le spectacle vivant aujourd'hui. Est-ce que
le monde de la culture, c'est 650 000 personnes même.
Est-ce que vous craignez des destructions d'emplois très importantes sur ces 650 000 ? Est-ce que vous avez déjà pu, malheureusement, les quantifier, puisque on nous parle d'un million de chômeurs supplémentaires ? Est-ce que cela, vous l'avez anticipé ?
Il y aura, hélas, effectivement, des difficultés dans ces secteurs. Il n'y a pas de raison. J'emploie pas un terme convenable, mais il y aura des difficultés. La crise va secouer l'ensemble du tissu économique. Moi, mon boulot, en tant que ministre de la Culture, c'est de déployer des moyens pour que cette crise soit abordée de la façon humaine la plus grande. C'est la raison pour laquelle le mécanisme d'activité partielle va continuer dans la culture.
Mais vous assurez un revenu aux intermittents aussi longtemps.
Il y a deux secteurs qui vont être plus particulièrement aidés dans les mécanismes d'activité partielle. C'est le secteur du sport et le secteur de la culture. C'est-à-dire que la réfaction sur l'indemnisation ne sera pas de 40%, mais simplement de 15%. Donc c'est bien pour montrer que nous sommes dans un secteur tout à fait particulier. J'ai voulu aussi qu'il y ait un fonds qui accompagne, parce que vous savez, dans le régime de l'intermittence, il y a, je dirais, des trous dans la raquette, qu'il y ait une poche d'argent qui permette d'accompagner les intermittents du spectacle qui ne seraient pas pris vraiment en compte par les mécanismes classiques, même si nous les avons étendus.
Et ça sera aussi longtemps que l'épidémie durera.
Bien sûr, aussi longtemps que l'épidémie durera, ce mécanisme d'activité partielle durera. Il y a également une enveloppe budgétaire qui va accompagner les artistes auteurs et un certain nombre de professionnels de la culture.
Mais l'année blanche, est-ce qu'elle pourrait être reconduite pour les intermittents autant que l'épidémie dure ? C'est-à-dire être reconduite une fois, c'est pas rien pour eux. C'est-à-dire que ça prolonge, je rappelle, d'un an leur indemnité chômage s'ils ont cotisé suffisamment à la première date. Est-ce que ce sera reconduit si l'épidémie perdure ?
Forcément, des mécanismes seront reconduits. Écoutez, pour l'instant, nous avons dans le budget de l'État, près d'un milliard d'euros qui est consacré à la reconduction du mécanisme de l'intermittence jusqu'au 31 août 2021. Excusez-moi de ne pas pouvoir vous répondre à cette heure et à cette date si nous serons dans le même état d'épidémie. Je rappelle également, et c'est important, que le mécanisme, c'est un mécanisme non seulement abondé sur le plan quantitatif, mais aussi sur le plan qualitatif. C'est-à-dire qu'on va rechercher les droits des intermittents beaucoup plus longtemps. Au lieu de les rechercher sur un an, on les recherche sur deux ans. On a permis aussi que les heures d'enseignement qui étaient comptabilisées pour 70 heures, pardon, de faire un peu de technique, sur les 507 heures qui sont nécessaires pour toucher l'intermittence, eh bien, ces heures d'enseignement soient portées à 140 heures. Donc, on accompagne l'intermittence qui est tellement importante pour le spectacle vivant.
D'ailleurs, c'est un système objectivement plus favorable que pour les autres demandeurs d'emploi. Est-ce qu'il n'y a pas là une forme d'inéquité ? Est-ce que la culture n'est pas mieux traitée que d'autres secteurs ?
Alors qu'il y a d'autres chômeurs. C'est pas en général ce qu'on dit. Mais justement, la caractéristique de la culture, c'est que c'est un secteur économique qui ne ressemble à aucun autre. C'est bien pour cela qu'elle doit bénéficier de mécanismes différents.
Et il y a un débat qui est en train de monter actuellement sur les contreparties liées à ce plan de relance et à aux 2 milliards notamment de la culture. Est-ce que vous demandez aux grandes institutions que vous allez aider, les grands musées du Louvre, eh bien, de garder leur personnel, de faire en sorte qu'ils aient le même nombre d'employés à l'issue de la crise?
Je dois dire que dans le secteur dont j'ai la responsabilité, la question ne se pose même pas. Parce que les salariés du monde de la culture développent des savoir-faire, des expertises qui ne sont absolument pas interchangeables.
Et quand vous dites donc, faire une remise à plat,
je pense que Catherine Pégard, qui est là, la présidente de l'établissement public de Versailles, a des salariés qui sont absolument pas interchangeables, bien entendu, ou Alexander Neff à l'Opéra de Paris, bien
mais
sûr.
Mais pour faire poser la question. Plus direct, est-ce que vous allez demander des économies à ces organismes publics en l'échange du soutien financier que vous leur apportez?
Je vais d'abord essayer. Comment voulez-vous que je leur demande des économies? Enfin, des améliorations de gestion, pourquoi pas? Mais des économies, ils ont déjà des déficits tout à fait considérables.
L'entreprise privée aussi, elle se réforme du coup.
Ah, ça... Oui, bien sûr que nous réfléchissions ensemble à des modèles plus performants, certainement. C'est la raison pour laquelle, par exemple, quand j'ai accueilli Alexander Neff mardi dernier, puisqu'il a pris la direction de l'Opéra de Paris le 1er septembre, j'ai également nommé une mission flash pour voir comment il était possible d'améliorer la gestion de l'Opéra de Paris avec Christophe Tardieu et Georges-François Hirsch, qui sont des très grands professionnels et qui connaissent admirablement l'Opéra de Paris, pour aider Alexander Neff dans sa mission et réfléchir comment faire fonctionner cette maison qui affronte des difficultés conjoncturelles liées à une succession incroyable, les manifestations, la réforme des retraites, l'épidémie de la Covid, mais aussi des difficultés structurelles que l'on connaît.
Vous allez les encourager à recourir au mécénat privé pour les grandes institutions?
Alors, évidemment, le mécénat est une source de revenus importante. Je note d'ailleurs que le prédécesseur d'Alexander Neff, Stéphane Lissner, avait été extrêmement performant dans ce domaine, mais que dans les variables d'ajustement des entreprises, hélas, le mécénat est aussi une variable d'ajustement et que l'on note dans les institutions culturelles un affaiblissement du mécénat. Alors, j'espère conjoncturel, elle.
Adrien Gindre.
Dans deux semaines maintenant, deux week-ends plus exactement, ont lieu les Journées du patrimoine. C'est toujours un très grand succès en France, partout sur le territoire. À Paris, on voit généralement des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes se presser dans les... au lieu de la République ou les grands établissements culturels. Comment on fait des journées du patrimoine en pleine épidémie, Roselyne Bachelot? Est-ce qu'elles vont avoir lieu sous la même forme? Est-ce qu'il va falloir réserver avec un nombre de places limité à l'avance? Comment ça va se passer?
Oui, nous ne pourrons pas faire les journées du patrimoine comme nous les avons connues jadis. Simplement l'année dernière, on a l'impression qu'on est dans un autre monde avec des files d'attente interminables, des gens à tout touche, pressés dans les locaux du patrimoine. Pour ce qui concerne par exemple le Palais Royal où se situe le ministère de la Culture ainsi que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, il faudra réserver sur Internet la visite avec des groupes de 10 personnes tous les quarts d'heure. Donc j'incite évidemment à faire cette réservation. Informer aussi qu'il existe une visite virtuelle des locaux du ministère de la Culture. C'est Frédéric Mitterrand qui avait organisé en 2010 les premières visites virtuelles de ce qu'on appelle la rue de Valois. C'est quelque chose d'ailleurs, je veux faire ce développement maintenant, parce que dans le plan de relance dont nous n'avons pas encore parlé, il y a 400 millions d'euros qui sont dévolus aux nouvelles pratiques culturelles, digitales, numériques, et pouvoir pratiquer des visites immersives. Ça a le double avantage. peut-être, espérons-le, de diminuer la pression sur un certain nombre de biens culturels très visités, des autoroutes culturelles, qui font que la billetterie n'arrive même pas à compenser les dégâts. C'est peut-être un peu fort, mais la pression qui est exercée sur ces biens culturels de prestige, et puis de permettre au plus grand nombre d'avoir accès de façon virtuelle à ces biens.
Donc le ministère de la Culture sera quand même ouvert, et l'Élysée également, pour les journées du patrimoine, il n'y a pas de changement.
Écoutez, suivez le guide, je ne vais pas vous, ici, vous donner la liste et les heures d'ouverture de tous les lieux. je suis doué, mais pas à ce point-là.
Guillaume Roquette.
Je parle du ministère de la Culture et du Palais Royal.
Alors on se renseignera pour l'Élysée. Guillaume Roquette.
Les journées du patrimoine sont souvent l'occasion pour les Français de découvrir que la très grande majorité des monuments historiques sont des monuments privés. Mmh. Eux aussi ont beaucoup souffert de la baisse des visiteurs avec l'épidémie. Est-ce que vous allez les aider ou est-ce que l'argent public, c'est surtout pour les intermittents du spectacle et les grandes institutions?
Non, la plus grande poche d'argent, le plus grand budget du plan de relance est bien destiné au patrimoine, avec 618 millions d'euros. Évidemment, le
vous
patrimoine...
Vous dites 5 milliards pour les intermittents du spectacle, c'est beaucoup moins quand même.
D'abord, le patrimoine, ce n'est pas seulement le plan de relance, c'est des budgets beaucoup plus conséquents. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le patrimoine? C'est aussi de l'emploi, vous avez raison de le souligner, mais dans ces 618 millions, il y aura un budget important qui sera consacré au patrimoine privé, et à travers aussi des aides aux collectivités territoriales, qui sont souvent maîtresses d'ouvrage d'un certain nombre de réparations et d'entretiens, en particulier d'un certain nombre de bâtiments. Il y a Jacqueline Gourault qui est là, ministre de la Cohésion des Territoires, et qui sait à quel point l'entretien du patrimoine est un facteur d'emploi et un facteur d'attractivité. Mais je veux insister sur un point qui me tient particulièrement à cœur dans le patrimoine. Et c'est pas pour rien qu'il y a le général Georges Lain qui s'occupe, comme vous le savez, de Notre-Dame. Alors, il n'y a pas Notre-Dame dans le plan de relance, puisque, par ailleurs, le financement en est assuré. Mais il y a dans le patrimoine, et Dieu sait, c'est le terme qui se convient pour les cathédrales, Dieu sait si c'est important dans les territoires. Un budget cathédrale qui n'a jamais été atteint. 80 millions d'euros pour le patrimoine des cathédrales. 27 cathédrales vont être aidées, chacune avec plusieurs millions d'euros. Je pense au grand comble de la cathédrale de Clermont-Ferrand, la façade sud de la cathédrale de Rennes, à la tour nord de la cathédrale de Châlons en Champagne. Donc vraiment, ce qui n'arrête pas, bien sûr, le plan de mise en sécurité qui est dans le budget du ministère. Ça ne s'est jamais fait, 80 millions d'euros pour les cathédrales.
Transition toute trouvée pour la question en plus.
Le grand jury, la question en plus.
Bonjour Madame la Ministre, Paul Godard et Pierre Roussel, nous sommes architectes associés. Notre agence fait partie de celle qui, comme Emmanuel Macron, était persuadée que la flèche de Notre-Dame aurait dû faire l'objet d'un concours d'architecture.
Nous avons pris acte de votre décision consistant à renoncer à un projet d'une flèche contemporaine. Notre question est donc la suivante. Pensez-vous que la copie d'un ouvrage ancien est plus légitime qu'une architecture d'aujourd'hui?
En d'autres termes, la culture du 19e siècle est-elle définitivement plus pertinente que celle d'aujourd'hui?
Roselyne Bachelot.
En arrivant au ministère de la Culture, c'est un des premiers sujets qui a été sur lequel j'ai été interpellée. Il y a un grand consensus sur le fait que, pour faire suite à l'émotion qui a saisi l'ensemble des citoyens français, croyants ou non, ici en France, mais aussi à l'étranger, devant ce drame intime, il fallait reconstruire Notre-Dame à l'identique. Parce que, le général Georges Lain est là, c'est vraiment quelque chose de très profond. Il y a eu aussi l'avis de la commission du patrimoine qui a été dans ce sens. Et très justement, le président de la République a suivi à la fois le consensus des citoyens et le consensus de cette commission du patrimoine. Ceci étant, ce n'est pas pour solde de tout compte. Il y a bien sûr la nécessité d'un geste architectural moderne, mais nous allons le faire sur les alentours, sur le parvis de Notre-Dame. Et à ce moment-là, le concours d'architectes pourra être utilement ouvert pour un geste architectural novateur.
Voilà la réponse à ces deux architectes. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie du Grand Jury. On parlera notamment plateforme télé comme Netflix, mais aussi bien sûr politique avec Roselyne Bachelot. A tout de suite.
Peugeot présente un rendez-vous historique.
Entrez dans l'histoire par la grande porte. Vous êtes convié aux 210 ans de Peugeot et pour cette occasion unique, la marque vous a réservé la part du lion, évidemment. Bénéficiez d'une reprise de 3000 euros en plus de la valeur de votre véhicule et repartez au volant de la plus chic des citadines, la Peugeot 108, avec toit découvrable, navigation et caméra de recul. Mais ne perdez pas de temps, des rendez-vous comme ça, ça n'arrive qu'une fois tous les 210 ans.
Détails sur Peugeot.fr.
Bonjour, c'est Éric Brunet.
Où va la France ?
Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 13h dans mon émission Où va la France ? Du débat, de la réflexion. On parle tout à l'heure de ces jeunes qui n'ont pas envie de condamner les auteurs des attentats de Charlie Hebdo. Où va la France ? C'est à 13h. À tout à l'heure.
Éric Brunet sur RTL.
Où va la France ? Et vous, qu'attendez-vous pour essayer l'hybride chez Renault ?
Aujourd'hui, il y a forcément une Renault hybride pour vous. Et avec nouvelle Renault Clio hybride, vous réalisez jusqu'à 25% d'économie de carburant. Alors venez la découvrir pendant les portes ouvertes du 10 au 14 septembre et profitez de Clio hybride à partir de 199 € par mois, sous conditions de reprise, entretien, garantie et assistance inclus pendant 4 ans.
Pour nouvelle Clio Zen E-Tech 140 LLD sur 49 mois, 40 000 km avec un premier loyer de 2 400 € jusqu'au 30 septembre, si Accordiac. Voir Renault.fr.
RTL, il est midi et demi. Le point sur l'actualité avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Un mort et 7 blessés, dont 2 graves. Le bilan de l'attaque au couteau cette nuit à Birmingham, la deuxième ville d'Angleterre. La police ouvre une enquête pour meurtre. Elle évoque un incident majeur. Un suspect est actuellement recherché. L'épidémie de Covid et le gouvernement va-t-il réduire la durée de la quatorzaine ? La proposition sera examinée au cours du prochain Conseil de Défense, confirme Roselyne Bachelot. La ministre de la Culture est l'invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI. Selon plusieurs scientifiques, la plupart des contagions a lieu lors des 5 premiers jours après l'apparition des symptômes. La Corse du Sud, la Haute-Corse, la Côte d'Or, le Nord, le Bas-Rhin, la Seine-Maritime et la Réunion, désormais considérées comme des zones de circulation active du coronavirus. Les préfets peuvent prendre de nouvelles mesures restrictives pour endiguer la recrudescence de l'épidémie. Plus de 100 000 masques transparents seront fabriqués d'ici à la fin du mois, promesse de la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées dans le JDD. Ils seront donnés aux enseignants de maternelle et ceux ayant des élèves malentendants. L'armée française à nouveau endeuillée au Mali. 2 soldats français ont été tués hier matin par une bombe artisanale dans le nord du pays. Un troisième est grièvement blessé. Cela porte à 45 le nombre de militaires français morts au combat lors des opérations Serval puis Barkhane. Allez, on file tout de suite sur le Tour de France.
RTL, Tour de France 2020.
9e étape de la Grande Boucle, la 2e dans les Pyrénées, Raphaël Vantard.
Oui, avec pas moins de 5 difficultés à gravir pour le peloton aujourd'hui, dont 2 cols hors catégorie, le col de la Oursière et un grand classique du Tour, le col de Marie-Blanc. Après la grande bagarre hier entre les favoris, il faut s'attendre encore à une étape mouvementée aujourd'hui. On suivra de près Guillaume Martin, Romain Bardet, mais aussi l'état de forme de Thibaut Pinot après sa terrible désillusion d'hier. Le départ de la 9e étape vient à l'instant d'être donné.
Merci Raphaël Vantard et on vous retrouve toutes les demi-heures pour faire le point sur le Tour de France. Dans un instant, la suite du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture et l'invitée de Benjamin Sportouche.
Ah, les surprises. Il y a celles du chef censé avoir du goût et d'autres parfois de très mauvais goût. Il y a des cadeaux aux surprises et des surprises qui sont pas vraiment des cadeaux. Et puis il y a les promos surprises, valables sur des produits qui, ah, surprise, ne sont plus disponibles. Bref, les surprises, parfois c'est mieux quand il n'y en a pas.
Chez Nissan, pas de mauvaises surprises. Consultez maintenant sur Nissan.fr nos offres exceptionnelles sur des Nissan Qashqai en stock. Et contactez directement en ligne votre concessionnaire pour réserver un essai. Du 4 au 13 septembre.
Nissan.
Détails Nissan.fr.
Salut, c'est Vincent Perrault.
RTL Pop Ciné.
Tout à l'heure, à partir de 14h, je vous donne rendez-vous avec la participation exceptionnelle d'Isabelle Huppert pour RTL Pop Ciné, des jeux, des interviews pour tout savoir de l'actualité cinéma.
Envie de tout quitter, de prendre le large ? Découvrez Dacia Sandero Evasion au look SUV avec sa touche surf, sa climatisation, sa motorisation essence compatible GPL sans surcoût. Tout ce qu'il faut pour saisir la vague de l'évasion qui vous gagne.
Profitez de Sandero série limitée Evasion à partir de 10 990 euros, éligible à la prime à la conversion. Dacia partenaire de la Fédération Française de Surf. Prix conseillé pour Dacia Sandero série limitée Evasion SCE 75.9. Plus d'infos sur Dacia.fr. Voir conditions de reprise et d'éligibilité sur primealaconversion.gouv.fr.
Grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Guillaume Roquette du Figaro et Adrien Jeanne de TF1 LCI qui vous pose la première question de cette seconde partie sur les plateformes télé que beaucoup de jeunes, on le sait, regardent et pas que. Adrien Jeanne.
Oui, parce qu'il n'y a pas que l'épidémie qui contribue à déstabiliser le monde de la culture et de la communication dont on vient de parler. Il y a également ces grands acteurs internationaux, qu'ils soient américains, peut-être chinois demain, le plus connu Netflix, mais qui n'est pas le seul. On pourrait citer Disney Plus et faire une très longue liste comme ça. On a le sentiment, Roselyne Bachelot, qu'ils ont d'une certaine manière la vie plus facile que nos acteurs français ici, que les producteurs habituels, que les acteurs de la télévision qui contribuent à financer le monde du cinéma, ces productions-là. Est-ce que vous pouvez nous dire que demain, ces acteurs-là auront les mêmes contraintes en France que celles qu'on impose à nos producteurs français et à nos financeurs français ?
Ils sont notamment propriétaires de films sur un plus long terme que les acteurs actuels du cinéma français et de la télé française.
Alors, je veux dire plusieurs choses sur ce sujet. Je reviens du festival du film américain de Deauville. Je veux dire de façon forte que rien ne remplace le contact des œuvres cinématographiques dans des salles. Et que ce plaisir de voir sur grand écran, il y a aussi de plus en plus des salles qui développent des systèmes qui vous permettent d'être en quelque sorte environné par l'action du film, rien ne remplace cela. Bien, ça c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, c'est que ces plateformes, certes, il y a ce qu'on appelle la chronologie des médias, c'est-à-dire que les œuvres cinématographiques apparaissent sur les différents médias, d'abord dans les salles de cinéma, puis à la télévision, puis enfin sur les plateformes au bout de 36 mois pour justement respecter tous les médias de diffusion selon leur participation au cinéma, au financement du cinéma. Alors, voilà ce qui va se passer, c'est-à-dire que va être transposé un certain nombre de directives, et en particulier la fameuse directive SMA, Service Média Audiovisuel, que je vais défendre devant l'Assemblée nationale dans la première semaine d'octobre. Donc, au 1er janvier 2021, c'est tout proche, il va être mis sur pied un dispositif qui va obliger au financement du cinéma ces plateformes qui, juste-là, n'y étaient pas contraintes au niveau, puisqu'elles étaient reléguées en fin de course dans cette chronologie des médias.
À hauteur de combien, Roselyne Bachelot ?
Alors, le débat est ouvert dans ce domaine. Mon prédécesseur, Franck Riester, que je salue, avait imaginé un chiffre de 25%. On va rentrer en discussion, bien entendu, avec du chiffre d'affaires de ces plateformes sur ces objets cinématographiques. On va en discuter avec les différentes plateformes. Nous verrons ce qu'on peut leur imposer. Mais en tout cas, il y aura un financement équitable à partir des plateformes, des objets, des productions cinématographiques.
Et même si on sait que leur chiffre d'affaires est quand même assez minoré pour certains d'entre eux, et que du coup 25% peut être une somme...
C'est pour ça qu'il faut rentrer en discussion. Mmh. Mais il est bien évident que si on leur demande une participation à la production des œuvres cinématographiques, on sera obligé, sans doute, et ce sera logique, en contrepartie, de resserrer ce qu'on appelle la chronologie des médias.
est-ce que ça suffira à protéger, je reviens à la première question, les acteurs français, ceux qui aujourd'hui sont de très gros financeurs de la création, du cinéma, et qui font face à cette concurrence qui est extrêmement rude?
Nous avons bien entendu un système de protection du cinéma français qui est à la production française, qui est inédite dans le monde, et ce système perdure. Il faut savoir aussi que les films étrangers, on oppose parfois le cinéma américain et le cinéma français, mais par une taxe, le cinéma américain finance le cinéma et la production française, on l'oublie souvent. Et que de plus, le cinéma américain, avec ce qu'on appelle les blockbusters, pardon de ce terme non francophone, entraîne derrière lui le cinéma français. On a vu que le succès de Tenet, avec ses 800 000 entrées la première semaine, était un facteur de dynamisation dans les salles dont profitait l'ensemble du cinéma français. Et à la fois les directeurs de salles, mais aussi les producteurs de films, étaient très inquiets de voir certains blockbusters aller sur les plateformes. Donc il faut garder un système attractif de notre cinéma.
Guillaume Roquette.
Oui, je reviens un instant au masque, puisqu'on parle de télévision. Vous avez votre masque juste à côté de vous sur votre pupitre. Est-ce que vous pensez que dans les émissions de télévision, les parties prenantes devraient garder leur masque?
Alors la question a été posée par le Haut Conseil de Santé publique, qui souhaiterait que sur les plateaux de télévision, à partir de... évidemment un journaliste qui s'exprime seul, mais qu'à partir du moment où il y ait un débat, les participants soient masqués. Pour ma part, j'espère que la situation sanitaire ne nous obligera pas à de telles mesures qui seraient très difficiles pour les journalistes, pour les débatteurs, les participants qui viennent, qui seraient un élément... difficile pour certains publics, en particulier les sourds et les malentendants, même si on imagine des visières transparentes, si elles sont utilisables dans les contacts en face à face, sur le plateau, c'est quand même très très difficile. Donc j'espère que la situation sanitaire ne nous obligera pas à de telles extrémités qui seraient extrêmement dommageables pour l'information.
Vous appelez ce matin, Rosine Bachelot, les Français à aller au cinéma, au théâtre. C'est ça votre message du jour. Est-ce que vous seriez prête? Vous avez été vous-même acte comédienne. C'était les monologues du vagin, si je ne me trompe pas, avec Marlène Schiappa il y a un certain temps.
Oui, et
est-ce que vous seriez prête à remonter sur scène si nécessaire pour lancer un appel, pour sensibiliser, pour montrer que eh bien, le théâtre doit être vivant et
qu'est-ce que je fais là si je ne suis pas sur scène?
Vous n'êtes pas au théâtre, hein, c'est vrai.
Voilà.
Là, vous dites la vérité.
Si ça peut être utile de monter sur scène pour être comédienne, je ne suis pas comédienne. Et j'avais fait les monologues du vagin. C'était un acte militant au moment de la journée de la femme. Et je ne regrette pas parce que j'étais avec deux filles vraiment merveilleuses, Myriam El Khomri et Marlène Schiappa. Et vraiment, on avait beaucoup travaillé. Et je crois que ça avait été très bien reçu. Mais monter sur la scène pour quelqu'un qui ferait ou un groupe d'artistes, chanteurs, comédiens qui se déploieraient pour la cause, pourquoi pas, bien sûr.
L'appel est lancé. Adrien
Alors, Jean. Pour venir vous revoir sur scène, peut-être qu'on pourrait utiliser son passe culture, pour les plus jeunes d'entre nous. C'est un dispositif qui avait été imaginé pour favoriser l'accès des jeunes à la culture. On constate qu'il est en partie dévoyé de son utilité première, voire pas du tout utilisé par les publics concernés. Est-ce que vous êtes, vous, convaincu par l'expérimentation qui a été menée? Est-ce que vous allez poursuivre dans cette voie ou est-ce qu'il y aura demain de nouveaux dispositifs pour permettre l'accès des jeunes à la culture?
On dit que ça n'a pas beaucoup de succès dans le département où c'est testé.
Alors, je suis très heureuse parce que Jean-Michel Blanquer a accepté de venir à ce grand jury.
Ministre de l'Éducation nationale.
Oui, pour ça. Merci de le préciser parce que vos deux participants l'avaient oublié. Jean-Michel Blanquer, ministre de la Culture et cette...
De l'éducation.
Ministre de l'Éducation, vous voyez, vous me troublez.
C'est un scoop.
Mais il est ministre de la Culture aussi, d'une certaine façon. Et c'est ça qui est important. Ministre de la Culture, parce que sur le sujet de l'éducation culturelle et artistique, nous marchons vraiment de concert, sans jeu de mots. Et je signale d'ailleurs que au moment des congés, nous avons eu plusieurs opérations de cet été culturel et apprenant. C'était quelque chose de très important. Je fais une petite dérivation. J'étais vendredi dernier dans le lycée professionnel Théophile Gautier. Et la façon dont on a présenté cette éducation culturelle dans l'année scolaire qui va s'ouvrir avec des profs absolument extraordinaires, où on faisait du hip-hop, pas moi, hein, sur les Indes galantes de Rameau, véritablement la conjonction entre avec Julien Chauvin et la loge, et l'orchestre de la loge, cette découverte de la musique baroque à travers le hip-hop par un public, alors vraiment, dont on aurait pu penser que la musique baroque, c'était pas son truc, c'était vraiment
mais
absolument
donc, vaut mieux faire la culture à l'école que par le pass culture, c'est ce que vous voulez dire?
Alors, le pass culture, on peut toujours regarder le verre à moitié vide et à moitié plein. Mmh. Bon, le pass culture, c'est un crédit de 500 euros par élève, par jeune, et c'est vrai que pour l'instant, seulement 120 euros ont été dépensés, qui montre que sans doute le pass culture a besoin d'être accompagné. Et c'est à cela que nous réfléchissons avec Jean-Michel Blanquer. Comment faire en sorte qu'une idée qui a besoin d'être accompagnée, qui n'ouvre pas seulement sur certaines consommations culturelles qui sont des objets culturels monétisables, c'est-à-dire qu'on achète des livres pour les revendre ou certaines places pour les revendre. Nous sommes en train d'y réfléchir pour faire en sorte que ce pass culture soit vraiment quelque chose au service de la démocratie culturelle et de l'accès aux jeunes à tous les types de culture. Alors, on peut dire que ce n'est pas suffisant, mais c'est justement une expérimentation. Et l'expérimentation, elle est faite pour voir ce qui ne va pas et comment l'améliorer. Et ça, on le fera tous les deux.
Rosine Bachot, s'est ouvert cette semaine le procès des assassins présumés de la tuerie de nos amis de chez Charlie. Et on voit s'est ouvert un débat sur la republication des caricatures. Et on a vu ce matin encore des réseaux sociaux comme Instagram dépublier ou supprimer des comptes qui publiaient ces caricatures. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre d'action? Le compte de deux journalistes de Charlie.
Sur Instagram.
Le président de la République a dit ce qu'il fallait dire sur ce sujet. Dans notre pays laïque, le droit d'expression ne peut pas être vendu par appartement. Le droit au blasphème est un droit dans la République française, laïque. Et ce droit, nous devons nous battre pour qu'il soit respecté.
Vous allez en parler avec le PDG de Facebook France, qui, justement, de cette suppression de...
Je le rappelle de façon forte, ici, aujourd'hui, que ce droit ne peut pas être amoindri.
Adrien Gendre.
Cette semaine a également été marquée, enfin la semaine dernière plus précisément, par la publication par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, de caricatures, là pour le coup, liées à un article, en l'occurrence la députée France Insoumise Danielle Obono, qui était représentée sous les traits d'un esclave. L'hebdomadaire s'est excusé, mais certains ont fait part de leur incompréhension de voir que dans la même semaine, on pouvait revendiquer le droit au blasphème pour Charlie et contester la liberté de la presse ou liberté d'expression, en l'occurrence, liée à cet article. Où vous situez-vous le curseur dans ce qui a été fait entre ce qui est de l'ordre de l'inacceptable, la députée a porté plainte, et ce qui est de l'ordre de la liberté d'expression de la presse?
La liberté d'expression, bien sûr, est totale, mais là, il s'agissait de la mise en scène à travers ces fameux feuilletons de l'été dont on raffole maintenant dans beaucoup de journaux, d'une personne parfaitement identifiée, Danielle Obono. Et vous savez, Dieu sait si je ne partage pas les options politiques de Danielle Obono, mais dans les livres qui m'ont marqué, il y a le magnifique livre de Toni Morrison qui s'appelle « Beloved ». Et dans ce livre, Toni Morrison rappelle à quel point l'esclavage n'est pas seulement quelque chose qui a été un drame pour les personnes qui l'ont vécu, mais que la transmission, la souffrance de l'esclavage irrigue de façon meurtrière l'ensemble des gens qui se reconnaissent dans le drame qui a été vécu, dans le crime qui a été commis il y a parfois plusieurs siècles. Et ça, si on n'arrive pas à le comprendre, c'est que c'est profondément inhumain de ne pas comprendre cela. Et c'est pour cela que, véritablement, dans ce domaine, je comprends Danielle Obono, je la supporte, et c'est absolument intolérable que de s'attaquer aux personnes à travers cela.
Il y a eu un débat sur des images, et il y a eu un débat aussi ces deux derniers jours sur la sémantique utilisée par le gouvernement en termes d'insécurité. Quand on parle d'insécurité, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a parlé d'ensauvagement de la société. Est-ce que vous, vous reprendriez ce terme, Roselyne Bachelot, et à la lumière de votre expérience politique, est-ce que vous sentez que cette société est plus violente qu'elle l'a été ?
Il y a deux façons de regarder la violence. Il y a la violence à travers des statistiques. On voit que sur les grands crimes de sang ou sur des choses aussi lourdes, les tendances sont plutôt en train de s'amoindrir. Et puis il y a le fait, et c'est tout à fait heureux, qu'il y a des violences qui étaient supportées qui deviennent vraiment insupportables. Je pense par exemple aux violences faites aux femmes. C'est quelque chose, il n'y a pas si longtemps, ma foi, tout cela faisait partie d'une sorte de, hélas, de consensus social insupportable. Maintenant, c'est totalement insupportable et c'est quand même heureux que ça devienne insupportable et que ça fasse l'objet de procès et de poursuites judiciaires. Voilà, il y a aussi des violences qu'on supportait et qu'on ne peut plus supporter.
Et ça veut dire que selon vous, il n'y en a pas davantage de violences aujourd'hui qu'il y a 10 ans ? Simplement, on ne les supporte plus, mais en termes de...
Mais on ne les supporte plus, heureusement.
Oui, mais ma question, vous la comprenez, c'est qu'il y a un débat là-dessus pour savoir est-ce qu'il y a plus aujourd'hui de délinquance dans la société française qu'il y en avait il y a 10 ans.
Et puis il y a des choses qui étaient, il n'y a pas seulement que les violences faites aux femmes, il y a toutes sortes de comportements qui ne relèvent pas de l'incivilité, mais qui relèvent de ce refus parfois de vivre ensemble qui est absolument intolérable et qui est très mal ressenti par nos concitoyens. Est-ce qu'il y a un ensauvagement ? Parce que vous me posez la question, je ne veux pas y échapper. Le mot est dur, le mot est fort. Est-ce qu'il signifie qu'on est dans une société où la montée des égoïsmes est très forte, où la revendication d'un bien-être qui ne se comprend que sur le plan individuel est fort ? Ça, je le partage tout à fait. Est-ce qu'on peut parler pour cela d'ensauvagement ? Moi, je veux retenir, au-delà de la sémantique, je veux retenir la réalité des choses d'une société où on a de plus en plus de mal à se supporter les uns les autres.
Adrien Gindre, sur 2022, puisque ça se précise.
Puisque c'est l'horizon, vous avez été avec Jean Castex et les autres membres du gouvernement nommés pour cette fin de quinquennat, qui sera donc conclue par une élection présidentielle.
Déjà, on connaît le terme.
On connaît le terme, en tout cas, vous l'avez. Est-ce que vous serez, comme Christian Estrosi, de ceux qui disent il faut passer un accord avec Emmanuel Macron pour faire sa campagne ? Vous, l'accord, vous l'avez déjà fait parce que vous êtes au gouvernement, mais est-ce que vous serez dans la campagne présidentielle en 2022 ? Et est-ce que demain, on vous retrouvera parmi les adhérentes de La République En Marche avec une carte de militante ?
Ah non, je ne serai pas adhérente de La République En Marche. C'est pas ma philosophie. Je n'ai plus adhéré à un parti politique depuis plusieurs années. Et à ce stade de mon existence politique et citoyenne, je pense que je peux m'exprimer d'une autre façon. Mais bien entendu, si Emmanuel Macron est candidat à la présidence de la République pour un autre mandat, j'ai été sa ministre. Et bien entendu, je serai présente dans sa campagne. Il ne serait pas pensable qu'il en soit autrement.
Et est-ce que vous considérez, comme Christian Estrosi dans Le Figaro, que Emmanuel Macron pourrait être le candidat naturel de la droite en 2022 ?
Je pense qu'il ne sera pas le candidat de la droite. Il sera un candidat avec un spectre politique beaucoup plus large. C'est plutôt aux Républicains qu'il convient de porter cette question. Est-ce que les Républicains se reconnaîtront dans Emmanuel Macron ? Je pense qu'ils ont toutes les raisons de s'y reconnaître.
C'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury. Question nette.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous. Bonjour. Rosine Bachelot. Alors, on va reparler du port du masque qui est obligatoire dans les salles de cinéma. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de questions par rapport à ça sur les réseaux sociaux. Vous avez déclaré qu'on pouvait l'enlever au cinéma pour manger du pop-corn. Et les internautes sont complètement perdus avec cette phrase. Pourquoi le rendre obligatoire, voilà, d'un côté, et si on peut l'enlever de l'autre côté pour manger du pop-corn ?
Au départ, dans les cinémas, on pouvait retirer son masque en regardant le film. C'est-à-dire qu'on avait le masque obligatoire dans les parties communes, dans les déplacements, et on pouvait le retirer. Maintenant, s'applique la doctrine des restaurants, c'est-à-dire que quand vous mangez du pop-corn ou un bâton glacé, moi j'ai essayé de manger du pop-corn avec une paille, je n'y suis pas arrivé, mais peut-être dois-je faire quelques exercices. Donc vous retirez votre masque pendant quelques minutes, vous mangez vos confiseries et vous le remettez après.
Voilà, pour c'est vous, il n'y a pas simple. De risque à enlever son masque pour manger
quelques
du
instants pour manger du pop-corn. Non, il n'y a pas, je pense que il n'y a pas de risque.
Autre question.
Oui, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, était l'invité du grand jury la semaine dernière. Et pour le Benjamin du gouvernement, le livre d'Agatha Christie, Les 10 petits nègres n'auraient pas dû être renommés, ils étaient 10, écoutez-le.
Ils font ce qu'ils veulent, en plus je crois que c'est quelqu'un de sa famille qui s'est positionné sur ce sujet-là. Mais enfin, moi, d'une manière générale, je trouve que regarder à la lumière d'aujourd'hui des œuvres ou des titres qui ont été donnés il y a un certain temps...
C'est comme ne pas déboulonner les statues.
Oui, voilà. Enfin, je veux dire, c'est on règle pas les problèmes d'aujourd'hui en regardant le titre qui a été donné à une œuvre.
Est-ce que vous partagez son avis ?
Alors, vous n'allez pas titrer sur quoi qu'entre Monsieur Attal et Madame Bachelot. Moi, je suis assez heureuse qu'on ait débaptisé 10 petits nègres. C'était d'ailleurs dans la littérature anglo-saxonne il y a très longtemps qu'il est débaptisé. Si ça peut blesser un certain nombre de personnes, sans altérer l'œuvre d'Agatha Christie, dont je suis une fervente lectrice.
Et que pensez-vous de l'écriture inclusive, Rosine Bachelot ? C'est-à-dire, à chaque fois, féminiser un nom, un substantif.
Ah, je ne suis pas une militante de l'écriture inclusive. J'espère que Jean-Michel Blanquer sera d'accord.
Jean-Michel Blanquer nous dit, il murmure qu'il est d'accord.
C'est horriblement compliqué. On a déjà toutes sortes de publics scolaires qui ont des difficultés avec l'orthographe, avec la lecture, avec l'écriture. C'est-à-dire mettre en place un mécanisme d'une complexité incroyable. Véritablement, c'est... Je pense que l'écriture inclusive est une démarche élitiste. Et c'est moi, ce que je veux, c'est un apprentissage de la lecture et de l'écriture démocratique. Donc, je ne suis pas pour l'écriture inclusive.
C'est dit. Autre question, Marie-Pierre.
Oui, il y a un tweet qui nous a interpellés cette semaine. On a découvert que vous avez installé au ministère de la Culture une tirelire en forme de cochon. Et à chaque fois que vous ou votre équipe dites un mot en anglais, vous devez mettre de l'argent dans la cagnotte, dans la tirelire. Vous avez utilisé le terme de blockbuster durant cette émission. Si on prend un autre exemple sur le coronavirus, il y a plusieurs ministres qui ont utilisé le mot de cluster au lieu de foyer de contamination. Est-ce que vous leur demandez de mettre un euro dans la cagnotte à chaque fois ?
Je plaide coupable, votre honneur. Je mettrai donc une petite pièce dans le cochon du ministère de la Culture.
Et donc pas cluster ? Vous leur demandez
cluster,
de...
non, ça, foyer, tout à fait utilisable.
Est-ce qu'il faut éviter d'employer ce mot-là, voilà, pour mettre en avant la francophonie ?
J'ai mis derrière mon bureau, dans le ministère de la Culture, dans le bureau qui fut celui d'André Malraux, une lettre du général de Gaulle qu'il envoie à André Malraux et qui lui dit « Cher ministre », parce qu'il parlait comme ça, le général de Gaulle, « Cher ministre, j'ai constaté que bien souvent on utilise des termes anglais, je vous demande de veiller... » Chaque fois que cela sera possible, et c'est toujours possible, ajoute-t-il de façon manuscrite, et c'est toujours possible d'utiliser un terme français. Donc j'essaie de me corriger. Je vais progresser, je vous le promets.
Très dernière question, plus grave, oui. Marie-Pierre.
Sur un tout autre sujet, Alain Cauque, qui est grièvement atteint d'une maladie orpheline incurable, il a demandé à Emmanuel Macron d'autoriser le corps médical de l'aider à mourir. Il a essuyé un refus, et il souhaite donc se laisser mourir en direct sur Facebook pour dénoncer la loi actuelle sur la fin de vie, mais conformément à ses règles, Facebook a décidé de ne pas diffuser la vidéo. En tant qu'ancienne ministre de la Santé, est-ce que vous comprenez Facebook ou est-ce qu'il faut faire une exception pour Alain Coq?
Alors, il y a plusieurs questions dans votre question.
On arrive au terme de cette question.
D'abord, Emmanuel Macron s'est prononcé en fonction de la législation en vigueur. C'est-à-dire que M. Coq ne relevait pas de la sédation profonde qui est incluse dans la loi Claeys-Leonetti. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans cette loi? J'y serais favorable, évidemment.
Vous y êtes favorable.
À l'approfondissement de la loi Claeys-Leonetti. Effectivement, le spectacle d'un suicide en direct ne me paraît pas de bonne politique.
Merci beaucoup, Roselyne Bachelot. Nous ferons un autre grand jury cette année avec vous, parce que nous avons beaucoup d'autres sujets, bien sûr, sur la table. Nous n'y manquerons pas. Très bonne journée à tous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.